France Musique.
Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
Vous aimez Mozart ?
C'est lequel ?
Le dernier.
Peut-être que j'ai pas de pot avec la musique.
T'en fais aussi ?
Moi, plutôt crevé.
Vous croyez pas que c'est un peu réservé à une certaine élite ?
France Musique.
La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
Saskia Deville.
Musique classique et humour font-ils bon ménage ? Joseph Haydn vous répondrait. Certainement. Ce compositeur espiègle n'est-il pas l'auteur notamment d'une symphonie surnommée La Surprise, dans laquelle il a inséré un grand coup de timbale pour, dit-on, réveiller les dames assoupies. Mais oui, dans la musique dite sérieuse, on trouve de l'humour décalé, ludique, parfois absurde, à l'image du style de notre invité. Comédien et auteur, magicien des mots, il aime se rendre disponible, se laisser cueillir, nous prévient-il. Eh bien, ça tombe bien, j'ai plein de choses à lui faire découvrir. Bonjour Stéphane de Groot.
Mais bonjour,
bienvenue sur France Musique. Ce canon de Johann Pachelbel, grand tube de la musique classique, c'est vous qui l'avez choisi ?
Mais oui, figurez-vous, parce que c'est une des premières musiques qui m'est tombée dans l'oreille quand j'étais adolescent.
Et par hasard ?
Oui, vraiment par hasard. Et alors, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a tellement de versions des canons de Pachelbel, mais qui sont perceptibles. Ce n'est pas le cas de toute composition de musique classique, où il faut être averti pour comprendre les nuances. Là, c'est vraiment, il y a des versions très très différentes. Et donc, c'est quelque chose qui m'a plu quand j'étais adolescent. Et puis, ça fait longtemps que je n'avais pas écouté ça, donc ça me fait plaisir de le réentendre avec vous.
Mais c'est un plaisir partagé. Style calme et contemplatif plutôt pour cette œuvre de ce compositeur de la deuxième moitié du XVIIe siècle, avec une intention sérieuse. Je ne sais pas si vous le savez, Stéphane de Groot, Pachelbel a cherché à mettre son art au service de sa foi en composant des œuvres destinées à une pratique domestique qui devait permettre à celui qui la pratiquait d'accéder à une élévation spirituelle dans la vie quotidienne. C'est ça que vous procure l'écoute de la musique classique à vous ?
Alors je ne sais pas si ça m'élève, mais en tout cas ça me détend. Ça me transporte, ça me fait balader. Et ce que j'aime bien aussi dans les canons de Pachelbel, c'est qu'il y a un contraste, c'est-à-dire qu'il y a une partition qui est assez douce, assez calme, et puis après ça part, il y a une envolée qui me plaît bien, et donc ça me sort de ma torpeur ou de ma contemplation, donc j'aime bien le contraste et le mélange des genres.
Dans quelles circonstances écoutez-vous de la musique classique ?
Alors de manière générale, j'écoute beaucoup de musique dans ma voiture, et de manière générale aussi chez moi, en fait tout le temps donc. Si on additionne les deux.
C'est vrai.
J'ai installé des enceintes dans ma salle de bain.
Vous sifflotez ?
Je sifflote, mais mal, du coup, j'ai arrêté. Et très mal. C'est dommage d'ailleurs, parce que c'est mon seul instrument, c'est le seul instrument que je peux maîtriser. Je suis très contrarié, parce que je suis pas un musicien, c'est-à-dire que je suis un amateur de musique, contrarié. Je crois que je me suis acheté 17 claviers. J'ai un piano chez moi, et je désespère de ne pas pouvoir jouer.
Vous avez déjà pris des cours ?
Bien sûr, mais j'ai arrêté après 10 minutes, comme tous les cours que j'ai pu entreprendre, et j'adorerais jouer de la musique.
Qu'est-ce qui vous freinait ?
La théorie. Je suis incapable d'apprendre... c'est ça, la théorie. J'apprends en faisant. Donc le piano, il l'a devant moi, donc je me mets à mon piano, je fais quelques accords, les mêmes depuis 35 ans. donc j'essaye, comme Pachelbel, de faire des versions différentes, des variations. Mais c'est très très limité quand même, c'est assez désespérant.
On devrait quand même essayer de vous organiser un petit récital sur France Musique, un de ces quatre.
Bonheur.
On en parlera à la sortie de cette émission. Alors Stéphane de Groot, je vous ai préparé une playlist. J'ai tout d'abord cherché, pourquoi pas, des compositeurs qui auraient fait carrière en tant que pilote de course aux côtés. Mais j'en ai pas trouvé, j'en ai pas trouvé, c'est votre cas à vous, hein. Vous avez été pilote de course pendant 15 ans. Par contre, j'en ai trouvé d'autres qui avaient de l'humour. Je vous propose d'écouter ici cette œuvre d'Eric Satie, composée juste avant la Première Guerre mondiale, dans laquelle il donne vraiment libre cours à sa fantaisie, à son humour, notamment pour le choix du titre, « Embryon desséché d'holothurie ».
Thank you.
un embryon desséché de l'Oturie, un concombre de mer, imaginé par Eric Satie, ici dans cette œuvre jouée par Jean-Yves Thibaudet. Eric Satie qui a écrit ceci: cette œuvre est absolument incompréhensible, même pour moi. Je l'ai écrite malgré moi, poussée par le destin. Peut-être ai-je voulu faire de l'humour, cela ne me surprendrait pas. Toutefois, je n'aurai aucune indulgence pour ceux qui en feront fi, qu'ils le sachent. Il est pas mal, Eric Satie.
Oui, alors quand il dit que c'est incompréhensible, il y en a d'autres qui sont moins compréhensibles que cette partition-là.
Lesquelles, par exemple?
Moi, je suis pas très fan de Boulez ou de musique qu'on dit contemporaine. J'y comprends rien parce qu'il y a pas de mélodie, il y a pas de. J'ai besoin moi d'être rassuré, d'avoir un cadre, d'avoir une référence. Et la musique contemporaine me perd complètement. Je la respecte, mais je comprends pas je vois pas où est la porte d'entrée.
Quels sont les compositeurs pour lesquels vous justement trouvez la clé?
Alors, je pense qu'il y a des compositeurs faciles, entre guillemets, comme Vivaldi ou d'autres. Je pense que même Mozart sont des musiques relativement faciles, plus faciles que Bach ou d'autres. Mais ça ne me déplaît pas d'écouter de la musique facile. Il y a peut-être un snobisme à dire que la musique facile n'est pas
trop
digne.
Facile.
Oui, est trop facile. Mais non, moi ça me plaît. Mais c'est comme la philosophie, quand elle doit être facile, elle doit être accessible,
abordable
pour le plus grand nombre. C'est le but. Donc non, moi j'aime beaucoup aussi les compositeurs faciles. Mais parfois je me fais plaisir à écouter des choses un peu plus denses. Ça me fait penser d'ailleurs, je le salue, à André Manoukian. Qui avait fait un spectacle au Théâtre de l'Œuvre et qui explorait comme ça différentes facettes de la musique et qui passait effectivement par des moments plus durs, mais proposés par lui, ça devenait, même les plus durs devenaient les plus abordables.
C'est ça que j'allais dire, avec une bonne explication, avec un discours didactique, on peut tout entendre.
Mais absolument, c'est comme les maths, c'est comme tout en fait dans la vie.
Cela dit, musique facile, moins facile, on regroupe tout sous le terme de musique sérieuse, de grande musique, de musique savante. Pourquoi, selon vous, n'imagine-t-on pas spontanément qu'humour et musique classique ou légèreté, facilité et musique classique peuvent cohabiter?
Mais d'abord, c'est une intention. Je pense que tout n'est pas humour. Alors, on revient à un grand débat. Est-ce qu'on rit de tout? Moi, j'ai pas envie de rire de tout. Sinon, on rit de rien. Mais la musique, c'est pareil. Il y a des moments pour... Alors, il y a une démarche amusante. C'est comme... Ça me fait penser peut-être au Carnaval des animaux, qui était assez léger. Et d'ailleurs, je voulais saluer aussi Benjamin Lévy, chef d'orchestre, qui m'avait proposé de réécrire le carnet. Et le livret, pardon. Et j'avais pas trop le temps pour le faire, mais c'est quelque chose qui me plaisait bien, qui m'aurait plu. Alors là, il y a une forme de légèreté, il y a une forme d'humour. Mais c'est une intention. Je pense qu'à un moment donné, il faut avoir envie de faire rire, ou d'autres moments où on n'a pas envie de faire rire, on a envie de faire autre chose, ou on a envie de rire de quelque chose, on n'a pas envie de s'amuser de telle ou telle autre chose. Donc oui, c'est une question d'intention, je pense.
Vous avez cité les mots de Desproges, Pierre Desproges. Peut-on rire de tout? Oui, mais pas avec n'importe qui, c'était ça qu'il disait. Moi, je vous propose d'écouter ici un extrait de l'une de ces minutes nécessaires de Monsieur Cyclopède.
De nombreux mélomanes non comprenants sont persuadés que Beethoven était non-entendant. C'est faux. Beethoven n'était pas sourd. Beethoven était con. Et je le prouve.
Non. Réfléchissez encore, monsieur Beethoven, et ne vous affolez pas. Je repose ma question. Combien y a-t-il de pommes sur cette table?
8.
Non, Ludwig, non. Je vous en prie, recomptez-les calmement.
Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. 8.
Quel con.
Étonnant, non?
Pierre Desproges, ici, dans cette minute nécessaire de Monsieur Cyclopède, baptisé Évaluons le quotient intellectuel de Beethoven. Il y a finalement peu d'humoristes qui s'aventurent sur ce terrain-là, Stéphane Groth. Ça vous a déjà titillé?
La démarche envers le musicien, faire de l'humour sur ce registre-là? Non. Alors déjà, moi, je me définis pas comme un humoriste. Je trouve que c'est
En tant qu'auteur, alors?
Oui, mais en tant qu'auteur, moi, je pourrais aborder l'univers musical. D'ailleurs, je pense que dans une de mes chroniques que je faisais sur Canal, j'ai dû aborder un grand compositeur. Mais chacun, je pense que c'est ça qui fait la singularité de quelqu'un, d'un comédien, d'un auteur, d'un humoriste, comme vous le disiez. Desproges, c'est sa manière de faire. Chacun a sa manière de faire, et je pense que c'est très important de ne pas faire ou vouloir faire pareil que les autres. Donc, si on le sent, il faut le faire, mais il faut pas que ce soit une posture. Alors, moi, ça me vient pas immédiatement, mais pourquoi pas.
Thank you. Stéphane de Groot, faudrait un petit peu travailler votre piano pour pouvoir jouer cette valse minute de Chopin.
Oui, quelques notes.
Quelques notes.
Je suis très énervé parce que j'ai des amis proches qui n'ont pas appris le piano et ils jouent sublimement bien, donc ce sont oui voilà, donc ça m'énerve.
Mais vous savez, il n'est jamais trop tard.
Non.
En tout cas, on évoquait des proches tout à l'heure. Ces cendres sont dispersées sur un carré d'herbe au cimetière du Père Lachaise, en face de la tombe de Frédéric Chopin.
Exactement.
Ah, ça vous le saviez.
Mais c'est parce que un jour je me balade au Père Lachaise, sur qui je tombe, un retraité qui faisait la visite des cimetières, il me dit: ah, mais qu'est-ce que vous faites là? Je dis: ben, qu'est-ce que je fais là, je me balade. Il me dit: vous venez en repérage?
Ah ben voilà.
Je trouve ça très joli. Et il me dit: je vais vous apprendre quelque chose. Donc il m'a amené sur la tombe de Desproges et il m'a dit: voilà, retournez-vous. Desproges était fan de Chopin et donc il avait demandé à ce que ses cendres soient proches de celles de Chopin. Et c'est quelque chose qui ne se fait pas. Disperser les cendres comme
ça. Absolument, il avait eu une autorisation spéciale.
De Chirac,
exactement. Si on parle de repérage, il y aurait un compositeur avec qui vous aimeriez cohabiter pour l'éternité?
Oh, il y en a beaucoup des compositeurs avec qui j'aimerais. On les définit pas comme tels, mais je trouve qu'il y a des gens qui composent autour de nous dans nos vies, qui sont pas que des musiciens. Donc moi, du moment que je suis avec quelqu'un qui a composé quelque chose pour moi, peut-être la plus belle des partitions, la femme que j'aurais aimée jusqu'à la fin, peut-être.
France Musique. Saskia Deville.
Stéphane de Groot, il y a un autre compositeur qui a marqué votre enfance, c'est Jean-Sébastien Bach. Vous avez choisi pour nous l'ouverture de cette deuxième suite en si mineur. L'ouverture de cette deuxième suite en si mineur, BWV 1067 de Jean-Sébastien Bach, le choix musical de notre invité Stéphane de Groot sur France Musique. Bach, Jean-Sébastien Bach, depuis tout petit, il vous accompagne?
Oui, parce que mon père était complètement fan de Bach. Il avait carrément construit une pièce dans notre maison d'enfance que pour écouter de la musique classique, et en l'occurrence Bach. Il était fou de Bach. Et pourquoi je propose celle-là, c'est que moi j'ai le souvenir d'un Bach plus dur, plus compliqué, plus complexe, et celui-ci est un petit peu plus léger.
Mm-hmm.
Donc c'est pour contraster avec ce que j'avais entendu quand j'étais petit. Mais il le mettait à plein pot dans cette pièce.
Et vous étiez le bienvenu dans cette pièce?
Oui, j'étais le bienvenu, mais il m'entendait pas rentrer, donc il savait pas que j'étais là. Donc oui, j'étais le bienvenu. Mais non, Bach, ça a vraiment bercé mon enfance.
Jean-Sébastien Bach, immense compositeur, il est rare d'entendre un musicien classique aujourd'hui ne pas évoquer ce compositeur qui a marqué tellement d'artistes. Finalement, trouver les bons mots, ceux qui résonnent ensemble, ceux qui touchent, qu'est-ce qui fait la note juste, le mot juste selon vous?
Alors vous parlez de Bach, je sais pas, moi ça me fait penser à Victor Hugo. Il y a comme ça des postures, des gens qui dégagent quelque chose de fort, de réfléchi, c'est peut-être comme Rodin aussi. Mais vous parliez de musique et on parlait d'écriture ou d'humour. Moi j'écris beaucoup comme si c'était de la musique. J'écris comme une partition, c'est-à-dire que les mots, ce sont des notes pour moi. Et très vite, j'ai l'impression que quand ça fonctionne pas, c'est que ça sonne faux. On me parle souvent de Raymond Devos ou de des proches dans mon travail, mais je pense que je suis plus influencé par les musiciens comme Gainsbourg, comme Bachung, comme tous ces gens qui jouaient beaucoup avec les mots et qui associaient leurs mots à une vraie musicalité, de fait, puisqu'ils étaient musiciens. Et c'est plus des gens comme ça, moi, qui m'ont influencé et qui m'inspirent.
C'est amusant parce que vous me parlez de légèreté, de facilité quand vous écoutez, vous aimez ça en tout cas, retrouver ça dans la musique classique. Cela dit, votre style à vous, vous pariez beaucoup aussi sur l'intelligence de ceux qui vous écoutent ou qui vous lisent.
Mais c'est toujours important, je trouve, de considérer l'autre comme quelqu'un de capable de vous écouter, de vous entendre. Je trouve que le mépris ou le faire rire aux dépens de l'autre, je trouve ça épouvantable, c'est du cynisme et je suis pas du tout là-dedans, c'est pas mon truc. Je le laisse à d'autres. Je suis plutôt dans l'ironie et dans le clin d'œil et d'aller chercher l'autre pour qu'on puisse se comprendre et partir ensemble sur un propos, sur un rire, dans un univers particulier. C'est intéressant. Si on fait rire tout seul, c'est pas mon truc. Je ris avec les autres et pas contre les autres.
Mesdames, messieurs, c'est en tant que secrétaire généraux d'un grand parti en gestation que nous sommes venus dans cette enceinte pour accoucher d'un vaste programme.
Le parti d'en rire, dont nous avons la fierté et l'honneur d'être les porte-parole.
Et les porte-cochères.
Vous l'avez déjà dit.
Merci.
Il n'y a pas de quoi. Va par le truchement de notre intermédiaire vous faire connaître ses principes.
Pour leur donner plus de chaleur et d'harmonie, nous allons vous les présenter sur les motifs du célèbre Brasero de Ravel.
Le Brasero, sourire si doux.
Dont nous nous sommes assurés l'exclusivité. Voilà.
Notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti, parti
d'Henri, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti.
Vous avez reconnu ces voix, Stéphane de Groot.
Oui, Pierre Dac et Francis Blanche.
Vous rigoliez beaucoup.
J'adorais ce duo. Et alors, c'est amusant parce que j'ai un bouquin chez moi de Francis Blanche. Et puis je le feuillette il y a pas longtemps et je retrouvais des formules semblables à celles que j'avais pu moi pondre. Alors évidemment c'est de lui, mais ça me faisait sourire de voir qu'on avait ou que j'avais des gymnastiques qui se rapprochaient de la leur. Donc ce sont des univers, ce sont des matières de fer qui me plaisent moi beaucoup.
Et qui plaisent à beaucoup de monde, hein. Francis Blanche qui a mis des paroles humoristiques sur des grands tubes classiques. Il y a ici ce Brasero, ce Boléro de Ravel, avec ce titre Parti d'en rire. Il y a aussi le complexe de la truite chanté par les frères Jacques sur un lied de Schubert. Il y a encore la pince à linge, hein, encore par les quatre barbus sur la cinquième symphonie de Beethoven. Alors vous évoquiez le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Vous aviez refusé un projet par le passé. Mais on aimerait quand même tout de même vous entendre. Prêtez votre plume au service de la musique classique. Pourquoi pas de la musique classique d'aujourd'hui, on peut en rêver, Stéphane.
Oui, oui, non, mais je le ferai parce que c'est quelque chose. Moi, la musique, ça fait partie de ma vie. Je trouve que la vie, c'est la musique. Et d'ailleurs, j'étais à un concert l'autre jour de Grand Corps Malade dans un festival à Thuire qui s'appelle Pellicule Live. Je salue Anaïs et François-Xavier de Maison. Le concert était magnifique. Je connaissais pas bien moi Grand Corps Malade et à l'écouter, je me dis mais c'est le genre de choses que j'aimerais écrire. Et puis on s'est croisés à la sortie et ça me titille, voilà. J'ai commencé à écrire des paroles de chansons pour l'un ou l'autre. Je suis très fan de Véronique Sanson. J'aimerais bien un jour l'appeler et lui dire voilà, écoute, je t'ai écrit une chanson.
Mais je suis sûr qu'elle nous écoute, allez-y.
Eh bien, je la salue, Véronique. On s'aime beaucoup. J'ai un respect fou pour cette femme, cette musicienne, cette chanteuse de dingue. Donc j'aimerais un jour, oui, vraiment lui confier quelques mots pour qu'elle puisse les mettre en musique et en chant, son.
Eh bien, j'irai en parler à la direction musicale de Radio France, je vous promets. Et puis pour votre récital de piano aussi pour la saison prochaine. Merci beaucoup, Stéphane de Groot, d'être venu nous voir dans cette émission.
Merci à vous.
Et puis j'en profite déjà pour annoncer à nos auditeurs la sortie de votre prochain film. Ce sera le 20 octobre, Tout nous sourit. Film signé Mélissa Drijard avec Elsa Zilberstein notamment. Et puis une tournée théâtre à partir de la fin du mois d'octobre. Qui est Monsieur Schmitt? Ce sera à découvrir un petit peu partout en France et puis à partir de la mi-janvier au théâtre Édouard VII. Vous retrouverez eh bien toutes les dates, le lien vers cette tournée sur la page de l'émission sur francemusique.fr. On va se quitter avec Händel, autre compositeur que vous aimez beaucoup.
Je peux rajouter une chose.
Je vous en prie.
Vous parliez du film de Mélissa Drijard. Il y a Elsa Silberstein, mais il y a Guy Marchand aussi.
Absolument.
Et comme Guy Marchand est acteur et musicien et fameux musicien, juste sur le tournage, un jour, j'ai entendu un saxo venir de loin. Et là, il avait emporté son saxo et puis les notes résonnaient dans le studio et c'était assez magique. Donc je salue aussi Guy Marchand.
Oui, vous faites bien. Merci beaucoup. Merci Stéphane De Groot. À très bientôt. Un extrait de cette ouverture de Händel pour terminer cette émission en compagnie de Stéphane De Groot. Merci à Pauline Boisaubert, Éric Lancien et Mathieu Tourin. Et puis merci à vous, chers auditeurs. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.